Une vie, une œuvre. Milena Hellig et Yvon Croizier vous offrent aujourd'hui le portrait de Vladimir Vysotsky. Vladimir Vysotsky, né à Moscou le 25 janvier 1938 et meurt dans la même ville le 25 juillet 1980 à l'âge de 42 ans. C'était un auteur, compositeur, interprète soviétique, également acteur de cinéma et de théâtre. S'il est reconnu à juste titre par les autorités soviétiques comme acteur, ses chansons ne seront jamais autorisées car ne correspondant pas à la politique artistique communiste et par conséquent, à quelques exceptions près, elles ne furent jamais enregistrées légalement en URSS. Un artiste révolté et survolté qui chanta son époque d'une voix torride et tonnante, qui osait et réussissait à exprimer la vie de ses concitoyens. Tel fut Vysotsky, idole du peuple russe et que les études d'opinion, chiffres à l'appui, place toujours loin devant Tolstoï ou même Tchekhov.
On dit de sa voix qu'il a, c'était une voix rock et que cette voix rock était entendue sur toute la Russie. On ne peut pas dire de sa voix qu'elle est belle. Mais c'est une voix qui envoûtait.
Mais je crois que le mieux c'est de la faire écouter, vous savez, parce que la décrire c'est impossible. C'est une voix de baryton. Mais qu'il forçait énormément, donc c'était une voix qui devenait très grave et très rocailleuse comme ça. Mais je crois que le mieux, c'est de l'écouter, parce que parler de sa voix, c'est dire bon qu'il avait une voix exceptionnelle et tout à fait originale, qu'on reconnaît absolument. Si on entend la voix de Vysotsky, on sait que c'est lui.
Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал.
Pour en parler, c'est difficile, il faut l'écouter. C'est une voix qui sort au moment précis où elle pourrait mourir. Je ne sais pas comment dire autrement, c'est-à-dire qu'il est dans une tension telle, au bord de se casser, mais en général, en fait, il ne cassait pas du tout. Je me souviens qu'il commençait à chanter, puis qu'il chantait de plus en plus fort, de plus en plus fort. Et puis, il passait dans une phrase très très douce, en baissant complètement la voix, en la prenant comme ça, plus chaleureuse. Donc il savait très très bien jouer de ça. Et c'est une voix de... je sais pas, c'est une voix de corbeau, quoi. De corbeau céleste.
Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря пурга и некому помочь.
Un baryton, la voix de Vysotsky, c'est un baryton. Un baryton écorché, un baryton rauque, assez râpeux. Il est marqué d'une rudesse comme ça, un petit peu, je ne dirais pas bestiale, mais on peut dire animale. Et c'est une voix de baryton très, très sexuée, comme peut l'être le brame d'un cerf.
Il avait une voix très troublante aussi, très séduisante. En même temps que très violente et qui parlait de la douleur d'une façon formidable. Par contre, dans la vie courante, il avait une voix très douce. C'était aussi une partie de la séduction qui m'a fait tomber raide, comme on dit. Puis la langue russe aussi, qui est une très belle langue, qui est ma langue maternelle. Donc tout ça faisait partie de la séduction. Mais il avait une voix de tragédien très très forte. Énorme, vraiment.
Chez Homer, on aurait dit une voix de stentor, une voix d'airain, presque brûlante, torride, une voix torréfiée. Beaucoup ont expliqué cette voix par les brûlures de l'alcool. Vysotsky s'en défendait en disant « Non, c'est ça, c'est ma voix ».
И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.
Прежде всего, это был крик больной души.
C'était un cri d'une âme malade.
То есть каждое слово это пережито им, и это очень важный момент.
On sentait le vibrant de l'émotion, du vécu.
En cela, la voix de Vysotsky est très proche des voix noires américaines, et Vysotsky n'aimait rien tant que de chanter, d'interpréter, d'imiter Armstrong, ce qui donne cette vibration. Et pour tout dire, cette trémulation très poétique.
Кто
кто-то высмотрел плод, что не спел, не спел. Потрусили за ствол, он упал, упал. Вот вам песня о том, кто не спел, не спел. И что голос имел, не узнал, не узнал.
Il faut pas chercher chez Vysotsky la précision. Ce qui est grand chez lui, c'est l'imprécision qui est poétique et qui fait que vous pouvez toujours interpréter une phrase de deux, trois ou quatre manières. Là, c'est un don, ça ne s'apprend pas. La force qu'il a dans l'originalité, c'est qu'il n'a pas étudié. Il n'a étudié ni pour écrire, ni pour chanter, ni pour trouver des mélodies. C'est l'autodidacte. Ça le pousse quelque part comme l'urticaire pour commencer à s'exprimer.
И большие снежинки и град он губами хватал на бегу, но к ней...
Une voix donc de poitrine qui est capable de rendre en même temps un son très pur, qui frappe par son extraordinaire amplitude pour l'expression des tourments de l'âme, mise au service de ses souffrances, quitte à crier ou à produire cette impression de cri de l'âme.
Смешно, смешно, когда секунд не достает, недостающее звено, и не долет, и не долет, и не долет, и не долет. Смешно, не правда ли?
Ну вот, и вам смешно, и даже мне. Конь на скаку и птица в лед. По чьей вине? По чьей вине? По чьей вине?
Владимир Высоцкий, «Le cri de l'âme». Milena Elig, Yvon Croisier.
Je m'appelle Yves Gauthier.
Tout a commencé pour moi à l'école, au collège, au lycée. Cela remonte au milieu des années 70. J'avais choisi russe comme deuxième langue vivante. Et en entrant dans le russe, je suis entré dans Vysotsky. Et pour moi, c'était tout à fait magique. C'était un grand mystère. Je comprenais pas grand-chose, mais je comprenais le mystère de la poésie. Je comprenais que c'était magnétique. Je comprenais la magie de la voix. J'étais très intrigué. Et je comprenais aussi que le russe qui sortait de sa bouche n'était pas tout à fait celui de mes livres de grammaire. Bien sûr que tout ça en rajoutait au mystère. Donc coupable Vysotsky de m'avoir intrigué et de m'avoir plongé dans son univers que j'ai retrouvé en écrivant un petit livre biographique, Vysotsky, un cri dans le ciel russe. Je pensais là faire son portrait et ensuite replier mon chevalet, mais j'ai découvert qu'une fois le chevalier posé, quand bien même le bouquin serait fini, on n'a jamais fini de l'écrire. Et à la fin des années 1980, c'était à Moscou, la Moscou de Gorbatchev. Et je travaillais à l'époque comme traducteur à Moscou. J'avais une vieille voiture, une vieille Lada qu'on appelait Jigouli, et qui un jour est tombée en panne, une panne d'alternateur. Donc me voilà dans la banlieue de Moscou, et je vais avec ma voiture dans un petit garage en tôle. La voiture est réparée au bout de quelques heures, et au moment où elle est descendue du pont, et que je demande aux deux garagistes qui tenaient la maison combien je leur dois, ils me répondent « ton blouson ». Et j'avais un blouson en cuir qui venait de Turquie avec une double fermeture éclair et des boutons pression. Pour la Moscou de l'époque, c'était un blouson à la mode. Ils voulaient mon blouson au lieu de mon paiement. Ils étaient menaçants et ils ont poussé la porte du garage, donc ils m'ont enfermé dedans. J'ai promené mon regard à l'intérieur du garage et je suis tombé sur un coin dans la pénombre, à peine éclairé, avec un grand poster de Vysotsky. Et là, j'ai eu une idée, une bonne idée. J'ai dit, je garde mon blouson, mais je vous donne un bouquin. Et ces deux-là se sont regardés d'un œil complètement ahuri. Et là, j'ai dit, oui, un bouquin qui parle de Vysotsky, c'est le livre de mémoire de Marina Vladi. Il vient d'être traduit en russe. Et j'en avais quelques exemplaires dans ma sacoche. Et là, ils étaient complètement incrédules. J'ai sorti de ma sacoche un bouquin comme on dégaine un pistolet, je leur ai tendu, et il fallait voir leur regard illuminé à la vue de ce livre. Ils l'ont feuilleté avec leurs gros doigts pleins de cambouis, et ils m'ont laissé partir, et c'est là que j'ai compris quelle était la place de Vysotsky dans le cœur des gens.
J'ai jamais vu quelqu'un adulé comme il l'a été par le public. Je pense que même les grandes stars du rock, etc., sont moins, avec beaucoup moins de moyens de transmission, bien sûr, à l'époque. Bon, maintenant, tout le monde connaît tout le monde, et le monde entier peut entendre une chanson à travers vos téléphones, etc. Mais à l'époque, ça se passait uniquement de pratiquement de bouche à oreille. On passait les petites cassettes où on se racontait même simplement ce qu'on avait eu le droit d'aller le voir dans un concert, dans un coin, etc. Dans une usine ou dans un stade. D'ailleurs, il a chanté dans des stades quand même, avec un petit micro. Enfin, c'était fantastique.
Marina Vladi, qu'est-ce qu'on entend là ?
Ben, ce sont mes oiseaux, des petits mandarins, des petits canaris. On a essayé de les couvrir pour pas qu'ils chantent trop fort, mais apparemment, ça marche pas. Donc, ils vont nous suivre pendant toute la conversation.
Marina Vladi, quand vous avez rencontré Vladimir Vysotsky, c'était qui à cette époque ?
Ben, pour moi, c'était personne. Moi, j'arrivais de France et je venais tourner un film. Et puis un jour, on m'a proposé d'aller voir au théâtre un acteur très connu, très réputé, dans un théâtre très, très réputé, le théâtre de la Taganka. Et j'ai été voir ce spectacle où, tout d'un coup, sur scène, j'ai vu un monstre sacré, vraiment, déjà. Mais j'ai été sidérée par sa puissance et la force et la violence de son jeu, etc. Et puis, sur scène, il avait l'air d'un géant avec une voix. Enfin, tout le monde connaît sa voix maintenant. Mais à l'époque, j'étais vraiment sidérée. Et on m'avait dit, tu verras, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Bon. Et on est allé après dîner au restaurant habituel où allaient tous les acteurs. Et j'ai vu rentrer un petit bonhomme tout à fait insignifiant, enfin, avec des cheveux mal coupés, assez timide quand même, des très beaux yeux, et qui s'est précipité sur moi en me disant « Enfin, je vous rencontre, et voilà, un jour vous serez ma femme, et je suis amoureux de vous. » Enfin, il m'a fait une déclaration comme ça devant tout le monde. Et après, il m'a chanté ses chansons, et que je comprenais de mieux en mieux, parce que la langue revenait, ma langue maternelle revenait. Et voilà, donc on s'est rapprochés comme ça, assez longuement, hein. Il m'a fait la cour pendant plusieurs mois quand même. Et puis un jour, j'ai accepté qu'il reste avec moi, et on est resté 12 ans ensemble, voilà. C'était en 1967, et nous sommes restés ensemble jusqu'en juillet 80. Le mois de sa mort, voilà.
Alors j'aimerais vous faire entendre quelque chose que j'ai pu récupérer dans le cadre de ce documentaire.
Allez-y.
Я спросил тебя, зачем идете в город? Марина, а вы знаешь, какая песня, если ты помнишь?
Il dit, Marina, est-ce que tu connais cette chanson?
Наверное, я погиб. Глаза закрою и вижу. Наверное, я погиб.
C'est une bande que... C'est une bande de... SF. Que mon père avait faite... Enfin, mon père enregistrait beaucoup les soirées qu'on avait à Moscou, parce qu'il y avait toujours énormément de monde. Et donc, il mettait son Grundig en route, comme ça. Mais c'est une des premières fois où ils sont vus avec Marina Vladi, je crois. Et donc on les entend un peu se draguer comme ça en cours de route, c'est joli.
C'est marrant parce que c'est une chanson qu'il n'a pas écrite du tout pour moi.
En fait, c'était l'actrice Lugina, mais ça, c'est pas dans la chanson, si je puis dire. Et en fait, le sens de cette chanson, c'est qu'elle est tellement loin de moi que je ne pourrai jamais la rattraper. Elle est à Paris, elle est à Prague, elle est partout dans le monde. Я понял, мне за ней, конечно, не успеть.
Ведь она сегодня здесь, а завтра... Ouais, c'est marrant. C'est marrant parce que justement, tout le monde pense qu'il a écrit ça pour moi, mais pas du tout. C'est une actrice avec laquelle il a tourné très très bien avant qu'on se rencontre et qui effectivement avait le droit d'aller à Paris parce que personne ne sortait facilement à l'époque.
Et il se justifie en disant c'est une chanson dédiée à une femme qui fait toujours des voyages partout, y compris à Paris. On lui demande au départ de Moscou. Oui, au départ de Moscou.
Marina Vladi, cette bande, cette archive, en fait, provient d'une bande qui a été enregistrée lors d'une soirée chez Max Léon. Et j'aimerais que vous nous racontiez un peu l'ambiance de ces soirées.
D'abord, il faut savoir que Moscou, à l'époque, il n'y avait pas d'autre endroit pour se rencontrer que les appartements. Il n'y avait pas de cabaret, il n'y avait pas de boîte de nuit, de choses comme ça. Donc, on faisait des soirées à la maison. Et chez Max, on rencontrait tout Moscou, bien sûr, parce que tout le monde se retrouvait les uns chez les autres, en fait. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Soit on allait au restaurant ensemble, mais bon, personne ne se laissait un peu comme ça facilement aller au restaurant, parce que naturellement, tout le monde était surveillé par le KGB. Mais dans les appartements, on savait aussi qu'on était écoutés, mais enfin, on s'en moquait un petit peu quand même. On s'amusait beaucoup.
Pierre Léon, quel souvenir vous gardez de ces soirées ?
La maison de mes parents était plutôt accueillante. Mon père était Max Léon, qui était correspondant de l'Humanité à Moscou, hein, depuis 58 déjà. Et donc la maison était très, oui, bah, très accueillante, très russe et française. Et donc en fait, tous les gens qui passaient, qui avaient des relations avec la France, venaient ici parce qu'on savait qu'on s'y amusait, qu'on pouvait boire, manger, chanter, enfin, tout ça. Je sais que tout le salaire de ma mère et de mon père y passait dans ces choses-là.
Et les voisins ne disaient rien quand vous faisiez ces soirées, qu'ils devaient probablement faire un peu de bruit avec Vysotsky qui chantait pour tout le monde?
Les voisins ne disaient rien, au contraire. C'est-à-dire que un jour, ma mère est allée s'excuser auprès des voisins, parce qu'effectivement, Vysotsky chantait très fort. Enfin, il avait quand même une voix qui portait, quoi. Et puis il s'arrachait la voix, hein, il s'arrachait les doigts sur la guitare. Enfin, c'était vraiment très, on entendait quoi. Et donc un jour, ma mère est allée s'excuser et ils lui ont dit :« Mais non, vous pensez bien que tout va très très bien. On a tout enregistré à travers la paroi. » Donc en fait, à chaque fois qu'ils venaient, les voisins enregistraient, puis après ça circulait effectivement dans la maison. Donc j'imaginais pas du tout la puissance d'amour qu'ils pouvaient déclenché chez le public, enfin dans le public, qui était énorme, absolument immense. J'ai jamais eu la sensation d'avoir affaire à quelqu'un d'important. Et donc c'était quand j'étais petit, bon ben je sais qu'il était très très gentil, enfin très drôle, et très très charmeur. Donc c'était, je crois que personne ne pouvait lui résister, c'était un truc très très fort, hein, qu'il avait dans la voix, la façon de regarder, de parler, ça je me souviens. Après, bon, il plaisantait avec moi, il me vannait tout le temps, enfin comme il faisait un peu avec tout le monde, mais évidemment moi petit encore plus. Et après, quand j'étais plus vieux, j'allais dire, enfin j'étais très vieux puisque je devais avoir 17 ans, et donc j'étais très très adolescent, et je me suis mis à jouer de la guitare, et là, pour une fois, je l'avais vu, il m'avait appris. Il m'avait montré comment était accordée la guitare à cette corde, parce que moi j'avais une guitare à 6 cordes, et donc moi je voulais qu'il me montre comment c'était fait. Donc il m'a montré, on a défait ma guitare, il m'a dit que la 7e corde c'était pas la peine, qu'elle allait juste me faire comme il faut. Enfin bon, c'était un truc très, pas quotidien, mais très simple. Donc les souvenirs que j'ai sont très, très peu nombreux, quoi. C'est un gars qui venait, quoi.
Officiellement, il était totalement réprimé. Il était accepté comme acteur de théâtre et comme acteur de cinéma et de télévision, mais comme poète et comme chanteur, il était complètement réprimé, c'est-à-dire qu'il n'avait aucune autorisation. Donc il donnait des concerts en douce, comme on dit, mais qui étaient vite arrêtés par la police, etc. Mais il chantait beaucoup en appartement, bien sûr. Et tout le monde enregistrait, ce qui fait que ses chansons partaient dans toute la Russie en une semaine. Tout le monde savait, connaissait la dernière chanson. Alors c'était assez rigolo parce que Il commençait à chanter, par exemple, il chantait dans un stade, dans une petite ville, ou dans un club d'une usine, par exemple, où on l'invitait un petit peu comme ça. Et il chantait une chanson et les gars reprenaient en chœur une semaine après qu'il l'ait composée. Non, on peut dire que sur ce plan-là, le magnétophone lui a sauvé un petit peu la vie et son art, parce qu'il n'y aurait pas eu de magnétophone et il n'aurait pas existé du tout, bien sûr, puisqu'il n'a jamais été édité. Jamais de son vivant, il n'a vu un texte édité. Il a eu quelques disques 45 tours édités, mais c'est tout, quoi.
Удар в удар, еще удар, опять удар, и вот Борис Буткеев Краснодар проводит апперкот. Вот он прижал меня в углу, вот я едва ушел. Вот апперкот, и я на полу, и мне нехорошо. И думал Буткеев, мне челюсть кроша, и жить хорошо, и жизнь хороша. При счете семь я все лежу, рытают землячки. Стою, ныряю, ухожу, и мне идут очки. Неправда, будто бы к концу я силы берегу. Бить человека по лицу я с детства не могу. Но думал Буткеев, мне ребра круша, и жить хорошо, и жизнь нехороша. В трибунах свист, в трибунах вой, а ту его он трус. Буткеев лезет в ближний бой, а я канатом жмусь. Но он пролез, он сибиряк, настырный они. И я сказал ему, чудак, устал, ведь отдохни. Но он не услышал, он думал, дыша, что жить хорошо, и жизнь нехороша. А он все бьет, здоровый черт, я вижу, быть в беде. Ведь бокс не драка, это спорт отважных и т.д. Вот он ударил раз, два, три и сам лишился сил. Мне руку поднял рефери, который я не бил. Лежал он и думал, что жизнь хороша. Кому хороша, а кому не шиша.
Mireille Chemiakine, vous avez vous-même suivi en 61 un traitement psychiatrique pour vos pensées non conformes aux normes soviétiques. Vous avez été exilé en 71. Vysotsky, il se situait comment par rapport au régime?
Ну, Высоцкий имел много проблем.
Высоцкий, il avait beaucoup de problèmes.
Он тоже бывал арестован.
Il a été arrêté.
Сидел.
À plusieurs reprises.
Несколько месяцев.
Il a passé même quelques
на
mois.
На Лубянке.
À Lubyanka, en
Но,
détention provisoire.
Но тем не менее сотрудники КГБ.
Mais les collaborateurs du KGB.
Многие любили его песни.
Comme ils aimaient bien ses chansons.
И как ни странно, один из концертов у него был сделан в здании КГБ для сотрудников КГБ.
Et paradoxalement, un de ses concerts, il l'a chanté dans l'enceinte même du KGB. Et son auditoire, c'était les KGBistes.
Высоцкого любили и любят все.
Et on peut dire que vraiment Высоцкий, il est aimé de tous.
Потому что он нашел какие-то
Parce
ключи.
Parce qu'il a su trouver ses clés.
Ко всем уголкам русской души.
Ses clés pour ouvrir toutes les portes et petites portes de l'âme russe.
Высоцкий по-прежнему считается одной из самых больших
Mais
фигур.
Высоцкий.
Это песня о войне.
Il a chanté sur le registre des thèmes, sur le registre de la guerre. Et les gens qui écoutaient ses chansons ne pouvaient pas croire un seul instant qu'il n'a pas fait la guerre lui-même. Et par exemple, les chansons des zecs, par exemple, tous ceux qui, les prisonniers de droit commun qui étaient dans les prisons, se reconnaissent dans le langage de Высоцкий.
Они все считали, что Володя прошел тюрьму.
Ils sont tous sûrs que Володя, lui aussi, il est passé par la prison.
Что это абсолютно свой парень.
Que c'est un des leurs.
И у него были песни, конечно, которые очень не нравились сотрудникам КГБ.
Ces chansons étaient d'une acuité et les collaborateurs du KGB n'aimaient pas beaucoup ces chansons.
Но в основном, так сказать, они не нравились Союзу писателей.
Et surtout, l'instance qui n'aimait pas ces chansons, c'était l'Union des écrivains soviétiques.
Которые в основном и писали в КГБ.
Justement, c'est ces écrivains qui calomniaient sur Высоцкий au KGB.
Действительно, да, мы, почти все мы прошли принудительное лечение психиатрических больниц.
Le KGB était là et nous tous nous sommes passés par la médecine punitive soviétique dans les hôpitaux psychiatriques.
Или просто отсидели какой-то свой срок.
Ou d'autres ont passé par la prison.
За антисоветскую деятельность.
Pour l'activité antisoviétique.
Но это в основном было из-за того, что с нами боролся союз художников,
très souvent,
или союз
писателей,
союз музыкантов.
Rapports venaient de soit de l'union des écrivains, soit de l'union des peintres, donc de l'intégration elle-même qui écrivait au comité idéologique.
А уже идеологический отдел, так сказать, вообще делал донос КГБ, и КГБ
rapportait
начинало
à son
расправляться
tour
с нами.
Au KGB, et la KGB mettait en action la machine répressive.
Mon sang est un cri, disait Vysotsky.
Yves Gautier, biographe.
C'était la peinture de sa voix. Il y a aussi une autre réalité, la fonction de son chant, de ses chansons, de son œuvre, qui est une fonction de dénonciation, de protestation. Pour lui, sa poésie, il l'écrit, il la compose pour faire la peinture de son temps, de son siècle, de son peuple, pour dire les problèmes et pour les crier. On peut regarder l'ensemble de l'œuvre de Vysotsky, ces quelques 700 chansons, un petit peu comme les Rougon-Macquart de Zola. L'histoire naturelle et sociale, donc une fresque sociale, une fresque de la vie russe, et on dira même une encyclopédie de la vie soviétique. Et ça, c'est une allusion directe à Pouchkine. Parce que Pouchkine, en son temps, quand il a signé son grand roman en vers Eugène Onegin, on a dit de ce roman que c'était une encyclopédie de la vie russe. Il n'est pas exagéré de dire la même chose de Vysotsky, car on voit à travers ses textes, on voit vivre un peuple, et on le voit souffrir. La Grande Guerre, bien sûr, et Vysotsky était d'abord et avant tout un enfant de cette Grande Guerre, lui-même fils de militaire. On y voit aussi les misères du goulag, l'univers carcéral, la vie urbaine des délinquants, des voyous, des criminels, le peuple ouvrier. Tout cela est rassemblé dans les textes, les chants, les poèmes de Vladimir Vysotsky, dans une langue très concrète, de chair et de sang, mais avec une prosodie, une technique de versification extraordinairement exigeante, avec une quête de la rime qui va très loin, et cette expression de cri, le cri de Vysotsky, eh bien, elle renferme tout ça. Elle est au service de l'expression des misères et des grandeurs d'un peuple. Et c'est un étrange paradoxe, parce que voilà quelqu'un qui avait une popularité absolument totale, et en même temps, il n'avait pas voix au chapitre, au sens où il n'était pas publié, il n'était pas jugé publiable. Censure oblige.
Si on parlait un peu du texte et du contenu de vos chansons.
Émission de Jacques Erwan, La Chanson, avec Vladimir Vysotsky et Maxime Le Forestier. France Musique, 1976.
J'ai remarqué, je ne les connais pas toutes, bien sûr, mais j'ai remarqué qu'il y en avait un certain nombre dont le thème était la guerre.
Vous savez-vous, je n'étais pas dans la guerre, mais j'écris beaucoup de chansons de la guerre. Et j'ai reçu beaucoup de lettres des gens qui écrit si vous êtes Vladimir Vysotsky que je connais quand j'étais dans la guerre. Voilà, et j'écris non, je n'ai pas c'est pas moi, mais je prends les thèmes de la guerre parce que je prends des gens qui est toujours dans risque dans la situation. Крайней ситуации.
Dans des situations extrêmes.
Extrêmes, toujours. Et c'est très intéressant pour moi, prendre des problèmes, очень острые проблемы.
Des problèmes très aigus.
Эта песня еще о том, как может себя чувствовать любой человек, не только на войне, но всегда находясь в очень острых и крайних ситуациях.
C'est ce que peut ressentir un homme qui se trouve toujours en danger, pas seulement à la guerre, mais dans toute autre situation extrême.
Et maintenant, mes chansons, c'est une moitié de ma vie dans l'art. Также серьезно, comment
c'est aussi sérieux pour moi.
Oui, comme ma travail dans le théâtre et au cinéma. Voilà, parce que je peux dire dans mes chansons tout ce que je n'ai pas dit sur la scène.
Ce que je n'ai pas pu dire jusqu'au bout sur la scène.
Je crois effectivement que c'est le propre de la chanson dans tous les pays de pouvoir véhiculer ce qu'il est impossible de dire ailleurs. Chanson qui s'intitule La chasse aux loups.
Ah oui, c'est une chanson très importante. C'est
une de ses chansons clés.
C'est des loups qui sont traqués par des hommes. Alors naturellement, l'auteur nous assimile, nous tous, aux loups, aux troupeaux de loups, à la horde de loups. Et les chasseurs, encore, c'est un double sens. C'est à chacun de trouver quel est son chasseur. Les rabatteurs crient, les chiens hurlent à en vomir, du sang sur la neige, des taches rouges, les taches rouges des drapeaux. Là, ça devient clair. Ils jouent un jeu de dupes avec les loups, les chasseurs, leurs mains ne tremblera pas. Ils ont cerné notre liberté avec des drapeaux. Maintenant, ils sont sûrs d'atteindre leur but. Pourquoi fonçons-nous comme des damnés devant des fusils sans essayer de violer le tabou? Le tabou qui ne dépasse pas les drapeaux.
C'est une phrase, par exemple, que oui. N'allez pas renier, je pense.
Absolument pas.
On pourrait trouver dans une de vos chansons.
Ce qui me touche, c'est le dernier refrain quand il dit « J'ai fait refus d'obéissance. J'ai dépassé les drapeaux. La soif de vivre a été plus forte que tout. J'ai juste entendu joyeux les cris d'étonnement des hommes derrière moi. »
Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили, гонят весело на номера.
Nous sommes donc dans une chanson qui s'appelle La chasse aux loups, qui est d'une intensité extraordinaire et qui est à bien des égards, la chanson de Vladimir Vysotsky, celle qui peut-être traduit le plus son âme, son esprit, sa révolte. Et cette chanson, on peut la regarder comme l'éloge de la transgression.
Но не дрогнет рука, оградив нам свободу флажками, бьют уверенно наверняка.
La chasse aux loups, donc. Pour ça, il faut comprendre ce que c'est que la chasse aux loups dans la tradition russe. Tout simplement, c'est un périmètre autour duquel on déroule une corde qui porte des petits drapeaux, des petits fanions, des fanions rouges. On fait une battue à l'intérieur de ce périmètre. Les loups se dispersent, cherchent à s'échapper, mais s'arrêtent net devant les drapeaux rouges. Et cette corde avec ces fanions qui pendillent leur inspire aux loups une peur qui les tétanise. Et c'est là qu'ils sont cueillis devant la corde par les chasseurs qui les abattent.
Вот кончается время моё, тот, которому я предназначен, улыбнулся и поднял ружьё. Идёт охота на волков, идёт охота на серых хищников, матёрых и щенков. Кричат загонщики, делают псы тервоты, кровь на снегу и пятна красные флажков.
Vysotsky écrit une chanson où un loup va s'émanciper, il va prendre sur lui de sauter par-dessus la corde. C'est la transgression par définition. Et ce chant de Vysotsky est en quelque sorte une invitation à transgresser, à passer la ligne au drapeau, la ligne au fanion rouge, ceci pour acquérir sa liberté et pour laisser bredouille les chasseurs décontenancés. C'est un appel à la désobéissance sociale.
Mikhail Chemiakin.
Donc, Vysotsky avait un courage absolument sans bornes.
Но мы просто принципиально мы не были диссидентами.
Mais ce n'était pas une, c'était une position de principe de ne pas entrer en dissidence.
Диссиденты это был Анатолий Марченко.
Ouvertement.
Это был Владимир Буковский.
Il y avait déjà des dissidents comme Vladimir Marchenko, comme Буковский, comme Наталья Горбаневская, comme Вадим Делоне, comme Якир.
Мы были инакомыслящие.
Alors que nous nous étions non conformistes. Des gens qui pensaient autrement.
Et à это уже в то время было преступлением.
Mais penser autrement à l'époque, c'était déjà un crime.
Но мы принципиально не занимались политикой в прямом смысле.
Mais en tant qu'artiste, nous voulions nous détacher de la politique. Nous
не
faisons
того,
pas de la politique.
Этого,
non pas
того,
parce que nous avons peur,
брезливали.
Mais parce que c'était notre credo d'artiste, on dédaignait la politique.
Dans sa chanson « Aux poètes et aux épileptiques », il décrit le destin de Rimbaud et de Byron, qui sont tous les deux morts à 37 ans. Et il écrit « C'est l'essence même des poètes de finir tragiquement ». Eux, ils sont morts à 37 ans. Lui, il avait 42 ans au moment où il est mort. Est-ce que vous aviez pu vous rendre aux funérailles ?
Comment pouvais-je à l'époque venir aux funérailles?
Je n'étais
même pas venir aux funérailles de mon propre père. Quand j'étais exilé, j'étais exilé pour toujours de l'Union soviétique.
Это нужно было всегда. 18 лет нужно было знать каждый день.
Il fallait assumer pendant ces 18 ans d'exil que c'est définitif et il fallait l'assumer.
Marina Vladi, quel était son sentiment vis-à-vis de l'Occident, entre guillemets, vis-à-vis de la France, par exemple, quand il venait en France? Comment est-ce qu'il se sentait?
Écoutez, la première fois qu'il est venu en Occident, on s'est arrêté en Allemagne, d'abord. C'était la première frontière occidentale. Et il a été malade, tout simplement. Il était malade de voir les magasins, de voir tout ce qu'il y avait dans les magasins et tout ça. Mais je crois que le problème, c'est qu'il n'a jamais voulu s'arrêter ici et rester. Enfin, moi, je ne pensais pas qu'il fallait qu'il reste, parce que son pays, c'était la Russie. Et son art, c'est la parole, c'est la langue russe. Donc, il ne pouvait pas non plus émigrer, comme certains l'ont fait, contraint et forcé, évidemment. Mais lui ne l'a pas choisi. Mais je crois qu'il aimait bien venir en France, mais pas pour longtemps. Au bout d'une semaine ou deux, il commençait déjà à avoir envie de rentrer. Donc... Il y a eu des bruits qui ont été racontés par des gens qui étaient nos meilleurs amis, son meilleur ami, etc., qui racontent qu'il voulait partir, mais c'est pas vrai. La preuve, c'est qu'il n'est pas parti, parce qu'il aurait très bien pu rester avec moi. Et il en avait et le droit et les moyens. J'avais les moyens de le faire vivre ici. Non, 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 il ne voulait pas quitter la Russie. Ça, c'est absolument certain.
Je m'appelle Constantin Kazansky, j'ai été invité par Vladimir Vysotsky, que je connaissais que de nom, de réputation, mais je ne connaissais même pas visuellement, en 75 pour participer dans les premiers enregistrements qu'il a pu faire en France. Et je crois qu'on avait une manière commune sur ce qu'on ne veut pas. Si vous dépassez le cadre de Vysotsky, si vous entrez dans la mentalité des créateurs russes, en commençant déjà par Pushkin, vous allez voir qu'ils sont tous déjà, c'est leur langue, mais ce n'est pas leur pays. Parce que c'est un pays qui n'est pas pour eux. Par contre, cette langue, elle est pour eux. Et ils ont un public qui est pour eux. Parce qu'il y a une incompatibilité entre le poète et l'État. Johnny Hallyday, qui transforme Hymne à l'amour et qui change un peu les paroles en chantant « Je renierais ma patrie si tu me le demandais ». Ça, on peut encore le dire en France. En Russie, on vous lapide. Ne vous inquiétez pas, c'est pas du H. Et Vysotsky, il n'a pas dit qu'il va renier sa patrie, mais il a décrit et les belles choses de sa patrie, et les autres, et même les choses médiocres. Vous voyez, en fait, c'est ça, la force, le talent poétique.
Mais je ne comprenais pas au départ comment cette non-reconnaissance officielle pouvait le rendre si malheureux. C'est quelque chose que j'ai mis très longtemps à comprendre. Pour moi, il avait l'amour du public qui était inouï. Ben, je crois que c'est un sentiment qui l'a fait mourir très jeune, parce qu'il était humilié constamment, censuré constamment. Vous savez, il arrivait dans un endroit, on lui refusait un concert. Il y avait 500 ou 1000 personnes qui l'attendaient. Et on disait, non, il est malade, il ne chantera pas, alors que c'était pas vrai, bien sûr. La censure passait, et hop. Donc c'était très difficile à vivre, et en fait, ça l'a miné terriblement, et naturellement, ça le poussait à boire, à faire des excès de toutes sortes, et à être très malheureux. Voilà. Parce qu'on meurt pas à 42 ans pour rien. Bien sûr qu'il a bu dans sa vie beaucoup, mais il buvait pas tout le temps, parce qu'il n'aurait pas pu travailler, faire autant de pièces de théâtre et de textes, écrire autant de textes et jouer dans autant de rôles au cinéma même et à la télévision. Il a énormément travaillé. C'est un homme qui ne dormait pas. Il dormait 3 heures par nuit à peu près. Donc c'était quelqu'un qui vivait quand même sur un diapason très haut et très tendu, toujours. Et en vacances, il se détendait un petit peu, mais il continuait à écrire quand même, la nuit. Donc il avait cette espèce de... Comment dirais-je de... C'était un autre pays dans lequel il rentrait la nuit, il rentrait dans ses poèmes, dans ses écritures, voilà.
Et physiquement, c'était comme un sportif, très, très, très... D'ailleurs, j'étais extrêmement étonné quand je l'ai rencontré, par le fait que moi, je croyais que ça va être, voilà, l'alcool, l'ivrogne et tout ça. Qu'il aurait ressemblé plus à Jacques Higelin. Voilà. C'était plutôt ça que je m'imaginais dans la tête de ce qu'on me racontait. Et puis, tout compte fait, c'était pas ça. Contrairement à beaucoup de légendes, ce n'était pas un alcoolique. C'était quelqu'un qui, de temps en temps, comme disent les Russes, nadrif, et zapoy, c'est je pars et je bois pendant 2-3 jours. Et c'est incroyable. Ils ne se rappellent pas ce qu'ils ont fait, mais ils font des choses. Ils ne dorment pas. Ça, c'est leur truc. Alors, ça lui arrivait de temps en temps de péter les plombs et de faire des frasques dans ce genre-là, mais ce n'était pas quelque chose qui était quotidien tous les jours. Voilà. Par contre, déjà quand je l'ai connu en 75, il ne pouvait pas être comme nous, alcooliques mondains. Non, il ne fallait pas qu'il boive. Ce qui fait qu'on l'a connu aussi pendant 2 ans et demi, c'est à Paris. À Paris, je parle. Russie, autre chose. Il ne buvait rien. Il était avec nous. Nous, on buvait, on fumait, bien sûr, tous, parce que c'était autorisé à ce moment-là. Mais lui, rien, de l'eau, et c'était tout. Il souriait, il était avec nous, il était content. Другу моему Михаилу Шемякину. Открытые двери больниц жандармерии, предельно натянута нить. Французские бесы, большие балбесы, но тоже умеют кружить. И я где-то точно наследил последствия, предвижу. Меня сегодня бес водил по городу Парижу. Конючил, выпей-ка бокал, послушай-ка гитары. Таскал по русским кабакам, где венгры да болгары. Я рвался на природу в лес, хотел в траву и в воду. Но это был французский бес, он не любил природу. Мы как сбежали из тюрьмы, веди куда угодно. Пьянели и трезвели мы, всегда поочередно.
Mikhaïl Chemiakine, ça ressemblait à quoi une soirée avec Vysotsky? On dit souvent que votre amitié était cimentée par du talent et des cuites folles.
Vous savez qu'en Russie, nous étions tous serviteurs, des grands serviteurs de Bacchus en Russie. Et d'ailleurs, les Russes ont cette réputation toujours.
Естественно, и Володя Высоцкий и я тоже изрядно служили.
И Володя и moi-même, nous étions alors donc à l'époque des grands serviteurs dans le temple de Bacchus.
Но на самом деле это все, конечно, легенды, потому что.
Mais ça tient beaucoup aussi de la légende.
Поэтому в песне одной, которая посвящена одному нашему единственному загулу, который случился.
Une chanson et qui donc consacrée à une cuite qu'on a fait, une seule cuite qu'on a fait ensemble.
Которая называется «Французские бесы».
Et cette chanson s'appelle «Des diables français».
Там как раз есть такая фраза.
Il y a une phrase.
Пьянели и трезвели мы всегда поочередно.
C'est toujours en alternance qu'on devenait sobre et on entrait en ivresse.
И однажды была довольно смешная история, когда и она порвала с ним, jour, на 2 месяца уехала из Москвы и не разговаривала с ним.
Un jour, où ils ont eu une brouille, et il est parti de Moscou, et pendant 2 mois, il n'a pas communiqué avec Vladimir.
Это как раз касалось песни «Французские бесы».
C'était après qu'on a, nous avons écrit la chanson «Les diables français».
Потому что Володя описывал наш загул.
Володя a décrit dans cette chanson notre cuite folle.
Который кончился для него в психиатрической больнице.
Qui s'est terminé pour lui par un hôpital psychiatrique.
Ну и, конечно, Марина переживала.
Et bien sûr, Marina s'inquiétait beaucoup pour sa santé.
И когда он исполнил ей эту песню, очень смешную, очень веселую.
И quand il lui a chanté cette chanson très drôle, très burlesque.
Марина слушала, хохотала.
Marina, elle a ri beaucoup en l'écoutant.
А когда он кончил петь?
Mais quand il a chanté le dernier mot.
Она встала с каменным лицом.
Elle s'est figée.
И стала собирать чемодан.
Et elle a commencé à plier ses bagages.
И когда Володя ее спросил, ну почему, Мариночка?
Et quand Володя me dit, mais Marina, pourquoi?
Она сказала, я страдала.
Elle dit, moi j'ai souffert.
А меня нет в этой песне.
Et moi je ne suis pas dans cette chanson.
И на 2 месяца вообще у них был разрыв из-за этой песни.
Et ils ont passé par une rupture de 2 mois à cause de cette chanson.
Хотя она как раз была виновата по поводу этого загула.
Même si c'était elle même à l'origine de cette du début de cette cuite folle qu'on a commencé.
Володя умудрился забежать на кухню и, думая, что это вино, выпил.
И Володя, il avait tellement envie de boire qu'il est précipité à la cuisine.
Выпил уксус.
Et il a pris une bouteille avec du rouge dedans en pensant que c'est du vin alors que c'était du vinaigre balsamique. Vinaigre balsamique.
Который был красный.
Et donc il a bu un bon coup.
И ему стало, в общем, где-то плохо.
Il a eu un gros malaise.
И Марина была в ярости вообще от всего этого.
И Марина était furieuse quand elle a compris ce qui s'est passé.
И она на него так набросилась. Марина очень крупная женщина.
Vous savez, Marina, c'était une femme avec une certaine corpulence, et elle s'est jetée sur lui.
И она, в общем, одним словом, она схватила его за шиворот.
Elle a pris littéralement par le cou.
В общем, я немножко стал бояться за его жизнь и схватил ее за руки.
И a commencé à le mettre dehors. Moi, j'avais peur qu'elle lui fasse mal, donc j'ai commencé à retenir ses mains.
И в результате она сказала: «Вы оба
пьяницы». Pour qu'elle lui fasse pas de mal. Et elle l'a mal pris. Elle m'a dit: «Vous êtes tous les deux alcooliques».
И убирайтесь оба. И она нас вытолкала на улицу.
Elle nous a mis dehors, tous les deux, en pleine nuit.
2 часа ночи.
2 heures du matin.
Мы с чемоданами и пьяной Высоцкой.
Donc moi j'avais donc sur les bras Высоцкий qui était sous.
Мы отвезли чемоданы donc, в Шар-де-Голь.
J'ai pris un taxi, on a amené les valises à Charles-de-Gaulle, à l'aéroport.
Естественно, никто его ни в какой самолет
не брал.
On les
a mis à la consigne. On a essayé de lui prendre un billet, mais évidemment dans l'état où il était, il pouvait pas prendre l'avion.
И мы приехали в русский кабак.
Donc ensuite on est retourné à Paris dans un kabak russe.
Где он сказал: «Ну слушай, мы с тобой ни разу не выпили даже маленькой стопки».
Et là il me dit: «Écoute, on a même pas bu encore ensemble une petite des petits 100 grammes».
Ну и вот началось с этой маленькой стопки.
Et on a commencé par 100 grammes.
И в результате песня.
Et donc à ça, grâce à ces 100 grammes, il y a eu la chanson que вы connaissez.
Опять спись. Сколько уже идем?
6 часов. Пошли. Возьмем вверх и пройдем вдоль скал.
Могу все. Теперь уже все.
Но ты пойми, там наверху ребята нас ждут.
А я не могу. Иди один.
И все-таки ты пойдешь.
Нет.
Нет, ты пойдешь.
On est là dans un film qui s'appelle Vertical, réalisé par le cinéaste Govorukhin. C'est une histoire d'alpiniste. Et Vysotsky va chanter pour ce film ce texte qu'il a composé, écrit, mis en musique. la Vysotsky comme vedette, le Bob Dylan soviétique, comme on l'aura surnommé, on peut considérer qu'il est né à partir de cet instant. Et c'est un chant qui se présente comme un éloge de l'amitié. Chez Vladimir, l'amitié était une valeur absolue qui l'aura mise en poésie et qui l'aura aussi appliquée dans ses relations avec ses proches.
Значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не беру, не ту, про таких не пою.
Yves Gauthier, vous avez écrit dans votre livre que chez Vysotsky, la vie, c'est l'œuvre. Cette chanson, elle peut faire écho à quoi dans la vie de Vysotsky ?
Chez Vysotsky, la vie, c'est l'œuvre. Au sens où c'est comme un signal qu'il a envoyé à ses biographes, ne cherchez pas ma vérité autre part ou autrement que dans mes poèmes. Souvent, chez les artistes ou poètes, c'est un système de défense, de protection, et peut-être même une coquetterie, une façon de faire barrière à une invasion extérieure dans les affaires privées, etc. Chez Vysotsky, c'est cela aussi, mais en même temps, c'est vrai. Le biographe, quand il s'attaque à l'œuvre de Vysotsky, à sa vie, son œuvre, très vite se rend compte du fait que rien ne nous parle autant de Vysotsky, de son intimité, de ses valeurs, de ce qu'il fait vibrer, que ses textes, que ses chansons. Ce champ de l'amitié chez Vysotsky est absolument clé. Les amis chez Vysotsky font tous corps avec son œuvre. Tous ses grands amis, d'ailleurs, ont des chansons qui leur sont dédiées. Et en même temps, ça va plus loin encore, au sens où, pour Vladimir Vysotsky, être un homme bien, bon, juste, vrai, ça veut dire, premièrement, avoir des amis, deuxièmement, ne pas les trahir, et troisièmement, célébrer cette amitié, la chanter. Dans un monde où les relations sociales sont surveillées, parfois dangereuses, dans ce monde-là, donc, les rapports d'amitié, de sincérité, de vérité ont une valeur de survie. La confiance devient une valeur humaine prioritaire. Et on sait que la vie de Vysotsky a été marquée par ce mode d'existence assez bohème, où souvent on se retrouvait chez soi, dans les appartements, dans les cuisines. La cuisine est par excellence un espace privé dans l'histoire de l'Union soviétique. Et là, on est chacun sur son tabouret, épaule contre épaule, autour d'un thé ou d'une vodka, ou qu'importe, avec des petits riens à manger. Et c'est là qu'on peut tous dire.
Мы все ожидали ее.
Sa mort ne m'a pas surpris.
Потому что он шел к этому.
Parce qu'il allait vers l'abîme.
Последние два года он еще плюс ко всему к алкоголю,
en fait,
к сожалению, сел на наркотики, на морфий.
Outre l'alcoolisme, il avait un problème de drogue, il était sous morphium.
Я никогда не забуду, когда Марина приехала ко мне, и она была в слезах, и
je n'oublierai jamais cette scène quand Marina Vladi est venue chez moi et il m'a dit regarde ce que j'ai trouvé dans ses affaires et elle me montre des seringues.
И она сказала: ты понимаешь, что это конец?
Et il m'a dit tu comprends que c'est la fin?
Потому что мы все обязаны Марине, что 12 лет она всё-таки его спасала.
C'est Marina qui était son ange gardienne et c'est grâce à elle qui veillait sur lui pendant 12 ans et il a pu vivre ces années.
Это удивительная женщина.
De sursis. C'était une femme remarquable.
Которая фактически принесла в жертву
elle
свою
блистательную
карьеру.
Sa carrière brillante, sa propre vie.
Для того, чтобы спасти
pour
этого
sauver,
человека, своего
pour
любимого.
Sauver cet homme, son bien-aimé.
И, конечно, жить с Высоцким, с одной стороны, был это подарок, а с другой стороны, это была громадная мука.
Il est vrai que d'un côté, vivre à ses côtés, c'était un grand don, mais d'un autre côté, c'était une grande souffrance.
Est-ce que, Marina Vlandi, vous pourriez nous raconter l'atmosphère et l'ambiance qui régnait lors de ces obsèques?
Écoutez, il y a des images, il y a des sons. C'était près d'un million de gens qui étaient dans la rue, partout, autour du théâtre, dans les arbres, sur les toits. Enfin, c'était énorme, d'autant plus énorme que personne n'avait annoncé cette mort. Elle était annoncée dans trois petites lignes, dans un petit journal. Et les gens criaient dans la rue, par les fenêtres, où tout le monde criait qu'il était mort, quoi. Donc il y a eu une espèce d'attroupement enfin phénoménal, vraiment, parce que... D'ailleurs, la police n'a pu rien faire, quoi, parce qu'ils ont, c'était tellement énorme que même il y avait des miliciens à cheval, etc., mais ils n'ont pas pu arrêter la foule. La foule venait vers le théâtre, et, parce qu'il était, son corps était exposé au théâtre. Donc il y avait, je vous dis, on parlait d'un million de personnes dans la rue. Voilà. Et ça continue, il y a toujours des fleurs sur sa tombe, et sur maintenant la sculpture qui est dans sur un des boulevards, qui est une sculpture entre Pouchkine et Gogol. Il l'a écrit d'ailleurs qu'il aurait un jour sa sculpture sur le boulevard.
Chaque année, un sondage paraît en Russie, où on demande aux gens quels sont leurs modèles dans l'histoire récente de la Russie. Et depuis 20 ans maintenant, d'une manière récurrente et régulière, on trouve toujours, cité en première position, à 34%, Yuri Gagarin, et très près derrière lui, Vladimir Vysotsky. Le troisième, c'est un chef de guerre, c'est le maréchal Zhukov. Les autres suivent, mais très très loin derrière... les Solzhenitsyn, les Tolstoï et autres sont très loin du peloton de tête, les trois de tête, qu'on appelle en russe la Troïka, et ce d'une façon invariable. Gagarin, Vysotsky, Zhukov. La tendance de ces sondages d'année en année montre que Vysotsky est inusable.
Кто сказал? Все сгорело дотла. Больше в землю не бросите семя. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время.
Владимир Высоцкий. Le cri de l'âme. Un documentaire de Milena Elig, réalisé par Yvon Croisier. Avec Marina Vladi, Yves Gauthier, Mikhaïl Chemiakine et sa voix française Nathalie Boyko-Jacoura, Pierre Léon, Constantin Kazansky. Coordination Christine Bernard, attachée de production Pascaline Bonnet. Merci à Irène Omelianenko.
Как разрезы траншей легли, и воронки, как раны, зияют, обнаженные нервы земли, неземное страдание знают, она вынесет все, переждет, не записывай землю в калеки. Кто сказал, что земля не поет, что она замолчала навеки? Нет, звенит она стоны глуша, изо всех своих ран и задушен. Ведь земля — это наша душа, сапогами не вытоптать душу. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она затаилась на время.